السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شافعنا الإسلام. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous permet d'être réunis ce jour fi masjid fi baytin in buyutillah pour accomplir la salat de Jum'ah, et que nous soyons en bonne santé et que nous vivions dans un pays en sécurité où on peut se déplacer et adorer Allah librement. C'est un grand bienfait et qu'Allah conserve et garde ce bienfait. Mes chers frères, nous appartenons à la génération qui bénéficie, alhamdulillah, le plus d'infrastructures. Nombre de mosquées, nombre de madrasas, de centres islamiques, d'associations, alhamdulillah, nous sommes entourés de structures, mashallah, qui sont solides. Nous avons accès à la connaissance religieuse avec plus d'aisance et de facilité que les générations avant nous. On a des ulama, on a des qurra, on a des a'imma, on a des livres, on a également accès à des sites internet, souvent très performant, très correct, où la connaissance religieuse est accessible en un clic. Nous sommes favorisés par rapport à ces bienfaits. Mais malheureusement, nous constatons que notre foi, notre iman est très faible. Notre pratique de la religion reste fragile. Nos bonnes actions sont bien présentes. Nous sommes là, nous prions, alhamdulillah, on répond présent aux bonnes œuvres, mais ça ne change pas réellement notre intérieur. Théoriquement, la salat doit améliorer le comportement du croyant. Mais on se rend compte que des fois, on est entré dans une routine de pratique religieuse et on ne trouve plus ce qu'on appelle la halawatul iman, la douceur de la foi. On se rend compte que des fois, on a affaire à des gens qui sont d'apparence religieuse, avec, mashallah, une présence aux mosquées, une assiduité aux bonnes œuvres. Mais lorsqu'il s'agit de travailler avec eux, lorsqu'il y a un contrat, lorsqu'il s'agit d'une relation de couple, problème de le couple, lorsqu'il s'agit de liens entre frères et sœurs pour l'héritage ou autre chose, ben, ces personnes présentent un tout autre visage. Et on se dit, comment est-ce que quelqu'un qui peut être aussi, entre guillemets, hein, religieux d'apparence, peut être aussi malhonnête et aussi peu plaisant dans sa façon de travailler, de louer, d'acheter et de négocier? C'est malheureusement un constat, et je m'inclus, wallah musta'an, dans ce constat. Ce qui est totalement incohérent, normalement, avec une pratique correcte, une assiduité, la religion doit s'installer en nous. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on a des manquements de notre iman. Et ces manquements-là, on les réalise encore plus quand on est exposé à des péchés accessibles. Lorsqu'on peut commettre un péché avec grande facilité, on se rend compte qu'on a de plus en plus de mal à dire non, à résister. Le moindre fitna qui se présente à notre porte, c'est un combat. Et très souvent, nous perdons ce combat. Tout ça, ce sont des signes alarmants qu'il y a une faiblesse dans notre iman. Il y a très certainement un manquement dans les bases de notre foi. Et c'est ce qu'on va essayer d'identifier. Mes chers frères, on parle beaucoup du variant Omicron qui est certes inquiétant, mais l'état de notre iman est encore plus préoccupant. Parce que pour les faiblesses de foi, pour les maladies spirituelles, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de dose de rappel. Et ce iman-là, cette foi, on a grandement besoin de l'entretenir. Parce que bientôt, mais je dis bien bientôt, nous allons rejoindre Allah Azza wa Jal. Bientôt, nous serons enterrés auprès de nos grands-parents, de nos parents, de nos frères et sœurs. Le nombre de mayettes qu'il y a, Allah musta'an, depuis un an et demi, deux ans, pour différentes raisons, ce sera mon tour bientôt. C'est pour ça qu'il est urgent, c'est la priorité de se remettre en question et d'analyser quels sont les manquements dans ma pratique religieuse. Et ne pas se cantonner sur une position où on est persuadé d'être, mashallah, le bon croyant. Mais comment maintenant? Quel est le miroir spirituel qui nous permettra de savoir s'il y a des manquements? Ben, ce sont les modèles. Et les modèles pour les croyants, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous propose un exercice de thèse qui a par miroir spirituel, par un récit prophétique, pour qu'on se rende compte quel est le véritable niveau de iman. Qu'est-ce qu'Allah attend d'un croyant?
pour dire de façon plus simple, qu'est-ce qu'Allah attend réellement d'un croyant en termes de zahir, action apparente, mais également batin, ce qu'on appelle les amalul qulub, les actions qui sont ancrées, qui sont normalement à la base de notre pratique spirituelle. Il y a deux hadiths, on va un peu en arabe, un peu en français. Sa'il bin Jubair radiallahu anhu rapporte: Ja rajulu min al-ansari ila al-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mahzunun. C'est le début du hadith. Un homme s'est présenté au prophète alayhi salatu wa salam et le prophète avait remarqué qu'il était triste. Le prophète a posé cette question, la question à ce sahaba: qu'est-ce qui t'attriste autant, ô mon cher compagnon? Il a dit: Ya Nabi Allah, shay'un fakkartu fihi. Il y a une chose qui me tracasse. Ça me dit, Mahoua, c'est quoi? Il dit, ô prophète d'Allah, en ce moment, nous sommes présents auprès de toi, autour de toi, nous te saluons, nous avons des relations, nous t'écoutons, nous avons la possibilité de t'admirer. Mais ô prophète d'Allah, j'ai pensé à quelque chose. Le jour où tu vas quitter ce dunya et que nous aussi, nous allons quitter ce monde, le jour de Qiyama, de l'Akhira, ô prophète d'Allah, tu seras avec les prophètes. C'est-à-dire les gens de ton niveau. Et nous, on ne sera pas à ton niveau. Et comment vais-je faire de l'au-delà, au prophète d'Allah, si je n'ai pas la possibilité de contempler ton visage et d'avoir le plaisir d'être à tes côtés? Des leçons spirituelles énormes que les muhadithis nous retiennent à travers cette simple, entre guillemets, cette simple déclaration. Il y a une deuxième version qui est encore plus poignante. Celle-là a été rapportée par Aisha radiallahu anha. La personne dit au prophète d'Allah, innaka la habba ilayya min nafsi. Ô prophète d'Allah, je jure que je t'aime plus que ma propre personne. Ô prophète d'Allah, je t'aime plus que min ahli wa min waladi, que ma propre épouse, que mes parents, que ma famille, que mes enfants. Ô prophète d'Allah, je t'aime plus que tout au monde. Il dit que wa inni la akunu fil bayti. Des fois, je suis chez moi, fa azkuruk. Et je pense à toi, au prophète d'Allah. فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى أَتِيكَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ. Et j'arrive pas à me contenir quand je suis chez moi. Je quitte ma maison et je reviens à la masjid juste pour te voir de loin. Ça, c'était l'amour que les sahaba avaient pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et face à cette tristesse, et il a dit la même chose que le premier récit, le jour où tu ne seras plus de ce dunya, tu seras avec les prophètes, comment est-ce qu'on pourra te voir dans l'au-delà? Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas répondu. Parce qu'il attendait le wahi, la révélation. Et là, Allah Rabbul Izzah révèle le surat qui est dans le verset qui est dans la surat al-Nisa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Le verset qui est dans la surat al-Nisa, qui rappelle que les pieux seront avec les prophètes, ceux qui ont donné leur vie pour Allah, Azza wa Jal. Deux récits, miroirs, qui nous permettent d'analyser notre état spirituel et qu'est-ce qu'Allah attend vraiment de nous, ce qui était visible à travers la réaction de ce sahaba. Les savants disent, il y a trois leçons à retenir, même si on en retient une seule, c'est déjà pas mal. L'amour profond, sincère, réel que les sahaba avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut se dire que moi aussi j'aime le prophète. Au nom de quoi on vient me pointer du doigt et dire que tu n'aimes pas le prophète? Qui sait ce qu'il y a de mon cœur? Bien sûr, chaque croyant aime Allah et son prophète. Ça, c'est la base de ce qu'on appelle ash-shahadatain, de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, c'est la base. Mais on a besoin de revoir la notion d'amour. Parce que la notion d'amour dans le ibadah, dans le lien avec Allah, aimer Allah, ça veut dire obéir à Allah Azza wa Jal. Et les savants expliquent, c'est un petit peu complexe, mais on peut essayer de simplifier, que l'amour d'Allah doit être à la base de notre motivation pour accomplir les bonnes actions. C'est-à-dire qu'il y a ce croyant qui accomplit la salat de façon traditionnelle, c'est un héritage culturel, c'est une éducation, et c'est très bien, mashallah, il est là, il est présent, il prie, alhamdulillah. Mais je veux dire qu'il se présente devant Allah, il lit Al-Fatiha, il lit Qul Allahu Ahad, An-Nas, Al-Ikhlas, et d'autres sourates, mais il prie depuis 2 ans, 5 ans, 20 ans, 40 ans. Et il ne constate aucune, on va dire, augmentation de iman, alors que le Coran rappelle « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ». La prière éloigne du turpitude et du blâmable. C'est-à-dire la prière, la salat fait de toi quelqu'un de meilleur. Je dis pas jour après jour, hein. Salat après salat, tu te rapproches normalement d'Allah. Maintenant, si, comme on l'a dit en introduction, je me rends compte que je me suis installé dans une routine spirituelle et que je prie, que ce soit Fajr ou Isha ou autre chose, et je ne ressens rien de particulier, c'est que, c'est là que c'est un petit peu compliqué, la base de mes bonnes actions, ce qui me pousse à accomplir les bonnes actions, ce n'est pas l'amour d'Allah. C'est un sentiment de devoir. C'est comme un code moral. C'est une identité religieuse. Je prie parce que je suis musulman. La salat est acceptée, sans le moindre doute. Ce n'est pas ça la question. Mais je veux dire qu'on nous recherche la douceur de la foi. Qu'est-ce qui fait que le cœur d'un croyant peut brûler d'amour pour Allah et son prophète, comme c'était le cas des sahaba? Et donc, les savants disent que, on reprend, l'amour d'Allah doit être la principale source de motivation pour l'accomplissement des bonnes actions. C'est-à-dire, quand je viens à la salat de Fajr, alors que la prière est à 5h05 et que j'ai peut-être j'ai passé une mauvaise nuit et que j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil, mais je viens, je prie, mashallah, je viens pas parce que namaz est obligatoire, pas uniquement parce que j'ai appris à la madrasa. Non, tout ça c'est bon, ça c'est des outils. Ça c'est ce qui nous a permis de comprendre. Je viens, je prie parce que j'aime Allah plus que tout au monde. L'amour d'Allah doit brûler dans mon cœur, doit animer mon iman, doit me pousser à accomplir les bonnes œuvres. Et les savants disent que si le point de départ de tes bonnes actions, c'est l'amour d'Allah, automatiquement, il y aura la sincérité qui va s'installer. Et quand la sincérité s'installe et qu'on s'applique, on se concentre, on a la dévotion, le istiqama prendra forme. Le istiqama, c'est la fermeté. Jusqu'à la mort, c'est le but. C'est rester dans cet état de soumission à Allah, de ibada, d'engagement spirituel. C'est-à-dire, prie mais ressens ta prière. Ne prie pas le cœur vide. Ne prie pas comme ceux qui, quand l'imam commence, ils démarrent leur pensée, ils vagabondent à droite et à gauche. Et l'imam dit, salam alaykoum wa rahmatullah, il ne sait même pas qu'est-ce que l'imam a lu, combien de rakats réellement il a fait. Voilà, shay, ce qui est malheureusement, souvent notre cas. Donc, replacer l'amour d'Allah au centre de notre vie spirituelle. Naam. Ça veut dire également que l'amour d'Allah, maintenant associé à la crainte d'Allah, c'est ce qui doit nous persuader et nous convaincre de délaisser le haram. Comme on a dit en introduction, on a des faiblesses de foi. Des fois, le haram se présente à nous, des quelque chose d'interdit, et on vacille, on doute. Et on craint de chuter, de sombrer. Et Shaitan est là, il appuie de toutes ses forces pour nous faire tomber dans l'interdit, dans l'illicite. Maintenant, si ce qui anime ton cœur, ce n'est pas juste un code de conduite fixé par la société que je suis un homme marié, je suis musulman, je n'accomplis pas l'adultère. Si tu n'accomplis pas l'adultère parce que il y a des gens qui t'observent ou parce que tu as un nom et que tu dois faire respecter le nom de ta famille, assurément, tu n'auras pas la fermeté dans l'éloignement du haram. Il est possible qu'un jour, Shaitan, il puisse t'avoir. Si ce n'est pas ici, c'est quand tu seras en voyage à 10 000 km où personne ne te verra. C'est-à-dire que haqiqatul iman, réalité de la foi, ne peut pas s'installer dans le cœur si l'origine, ce n'est pas l'amour et la crainte d'Allah, azza wa jal. Donc ça, c'était une première leçon. Et les savants disent qu'on a besoin de travailler cet amour d'Allah. Maintenant, comment développer? Quelles sont les pistes pour développer l'amour d'Allah? C'est essayer de penser à Allah de façon permanente. Essayer autant que possible, c'est possible, wallahi c'est possible, de faire le dhikrullah autant qu'on peut. Dans les embouteillages, quels que soient les endroits où on a un creux, on pense à Allah Azzal. Première piste. Deuxième piste, c'est se rappeler du regard d'Allah sur nous. Ça c'est important. C'est ce qu'on appelle le muraqabatullah, qui a été très bien expliqué par Ibn Uthaymin dans les commentaires de Riyad al-Salihin, Jardin des Vertus, c'est ajib. Le muraqabatullah, c'est tu es persuadé, et c'est une réalité, qu'Allah te voit, t'entend, t'observe et sait ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu as cet, on appelle ça l'éveil spirituel. Si tu as cet éveil spirituel, comment est-ce que tu vas céder au zina ou accomplir un autre péché, sachant que tu as la pensée d'Allah permanente dans ton cœur? C'est, on va dire, ce sont des choses très simples. Hein. On est sur des bases, des choses basiques. Mais on a besoin vraiment de faire un peu de ménage hein, dans notre pratique religieuse et de consolider les bases de la foi et qui démarre par un lien du cœur avec Allah Azza wa Jal. Deuxième leçon à retenir. La seule préoccupation des sahaba, je rappelle, ce sont les leçons contient des deux hadiths qu'on a cités. La seule préoccupation des Sahaba, c'était leur avenir dans l'au-delà. Leur devenir, on dirait plutôt. Ils n'avaient aucun souci de ce dunya. Qu'est-ce qu'ils vont manger demain? Est-ce qu'ils vont terminer le mois? Les problèmes de santé? Qui va prendre en charge ma femme et mes enfants après ma mort? Wallahi l'azim, ce n'était pas le souci des Sahaba. Ridwanullahi alayhim ajma'in. La seule chose qui les préoccupait, comment est-ce que je vais mourir? Comment est-ce qu'Allah va m'accueillir? Comment je serai dans le-delà? D'où sa question au prophète d'Allah. Mon souci, c'est est-ce que je pourrais être avec toi le jour du Qiyam? Là aussi, les savants disent, c'est une réforme spirituelle que nous devons mettre en place en recentrant, c'est un peu choquant de le dire, la mort au centre de nos vies. Le problème, c'est que nous avons oublié la notion de la mort. Les seules fois où nous pensons à la mort, c'est quand il y a mayette. Et quand ce n'est pas un proche, on assiste, mais voilà, on a l'esprit ailleurs. C'est quand on perd un proche qu'il y a un réel changement, où on se pose les bonnes questions, il y a un réveil intérieur, mais il ne faut pas attendre ces moments. Le croyant intelligent, on parle de qawmun ya'qiloun, des personnes qui réfléchissent, qui analysent. C'est celui qui pense à la mort, à son décès chaque jour, qui se dit comment sera ma situation dans la tombe, et ainsi de suite, comme les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, le faisaient. Comme on l'a dit, on a eu beaucoup de décès dans la communauté, mais ces personnes qui nous ont quittés, ils sont où maintenant? Ils sont dans l'étape de la tombe, dans le monde après cette vie et avant la résurrection. Et c'est une étape que nous allons rejoindre. Et mes chers frères, la mort, la vie dans la tombe, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare chaque jour où on a la chance de se réveiller le matin en disant « Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama matana wa ilayhi an-nushur ». C'est dans ces moments-là qu'on prépare ce rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Et troisième leçon, on va aller un peu plus vite, ce que les savants retiennent, c'est que les sahaba avaient compris que les bonnes actions de ce dunya ont une continuité. Et la continuité, c'est dans l'au-delà. Être conscient, pour faire simple, que quand j'accomplis une bonne action, je la retrouverai dans l'au-delà. Mais quand j'accomplis un péché, je le retrouverai également dans l'au-delà. De cette façon, il y a une prise de conscience sur l'impact et l'importance de mes décisions, qu'Allah Azza wa Jal nous permet d'atteindre ses objectifs, nous permet d'atteindre la réalité de la foi. Et en conclusion, les savants disent, si vous voulez savoir l'état de votre iman, les bases de votre foi, analysez deux actions du quotidien. Analysez la qualité de vos doigts. On ne parle pas du doigt qu'on fait derrière l'imam, on dit juste amin et puis on s'en va. Non, non. Le doigt, c'est converser avec Allah, se livrer à son Seigneur. Parler avec Allah, lui dire nos chagrins, nos craintes, nos attentes, notre espoir, lui demander de l'aide, protection. Ça, si j'arrive à rester concentré dans les doigts pendant 15, 20 minutes, sincèrement, c'est que l'iman, il est bien présent. Si ce n'est pas le cas, il y a un manquement. Et deuxième action, regarde, est-ce que tu es concentré dans la salat ou non? Qu'Allah Rabbul Izzah pardonne nos manquements, nos erreurs, comble justement les manquements qu'il y a dans notre iman, nous permet de nous élever spirituellement, afin que le jour où il nous accueille de l'au-delà, il soit satisfait de nous. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.